Eh bien, on m'a expliqué que cette parole de Jésus, ça signifiait que Jésus avait construit son Église sur Pierre, en lui donnant toute autorité. Alors, il semble que, d'après les Écritures, la réalité soit beaucoup plus complexe. En réalité, qu'est-ce qu'a voulu dire Jésus par cette phrase ? Ben, manifestement, Jésus veut bâtir son Église sur des fondations solides, dont la pierre angulaire, la pierre de base, c'est Jésus. Pour s'en convaincre, on va lire, j'ai mis deux versets derrière, mais on va en lire qu'un. Acte 4, verset 11. « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. » Et vous savez que dans son livre, Ralph Challis, qui était un homme de Dieu, il a écrit dans son livre « La cellule vivante », l'idée magistrale de Jésus-Christ pour son Église, à la page 17, il dit « J'affirme que l'Église est bâtie sur le Fils de Dieu et non sur Pierre ou Paul. » Paul lui-même reconnaît que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Évidemment, tout vrai chrétien sait que l'Église est fondée sur Christ, sur sa personne et sur son œuvre rédemptrice. Mais dit Ralph Challis, il dit « On oublie que l'Église est fondée tout autant sur la parole de Christ et sur son enseignement. » Malgré tout, on ne peut pas ignorer que Jésus s'adresse à Pierre et l'associe à la construction de l'Église. Alors oui, le Christ est le fondement ultime et final, le fondement par excellence, mais Christ a bien utilisé des hommes pour construire son Église. Des hommes qui, comme l'apôtre Pierre, ont confessé la divinité de Jésus-Christ. Alors, une personne qui ne ferait pas cette confession ne pourrait pas faire partie intégrante du corps de Christ. Hein, le témoignage de Pierre. Alors Jésus va bâtir son Église, mais qu'est-ce que l'Église et pourquoi l'Église ? Alors en réalité, frères et sœurs, l'Église, c'est nous. C'est nous ce matin, l'Église, hein, on est d'accord. Mais allons plus loin, soyons un peu plus profonds. Le mot « Église » vient du grec « ecclesia », qui est formé du préfixe « ek », qui signifie « hors d'eux », et du verbe « kaleos », qui veut dire « appeler ». Et l'Église, en réalité, regroupe toutes celles et ceux qui ont été appelés et qui ont répondu à l'appel du Christ à sortir des principes du monde. Hein, vous voyez ce que c'est que le monde. Mais malgré tout, tout en restant dans le monde. Parce que rappelez-vous ce qu'a dit Jésus dans sa prière, « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Jean 17, 15. Et l'Église va désormais s'attacher aux principes de Jésus-Christ, plus aux principes du monde. Alors maintenant, posons-nous la question, pourquoi l'Église ? Pourquoi ? Eh bien, Dieu, depuis toujours, a voulu construire un peuple qui lui soit acquis, qui lui soit obéissant et fidèle. Dans Deutéronome 27, 9, on peut lire « Moïse et les sacrificateurs parlèrent à tout Israël et dirent « Israël, sois attentif et écoute. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel, ton Dieu. Tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois. » Voilà, hein, Israël, c'est le peuple de Dieu. Dieu a tout organisé, tout orchestré pour qu'Israël soit le peuple de référence, le peuple modèle de Dieu pour les autres peuples, pour les autres nations. Qu'en somme, il soit un exemple à suivre pour les païens. Mais il faut le dire, Dieu a en partie échoué avec Israël, qui n'a pas été fidèle comme Dieu l'espérait. Pourtant, ben, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu n'a pas rejeté le peuple infidèle qu'il avait choisi. Israël reste le peuple de Dieu. Mais en mourant sur la croix, Jésus a ouvert une porte pour laisser entrer celle et ceux qui vont constituer le nouveau peuple de Dieu. Dans Tite 2, 14, on peut lire « Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Voilà, il appelle un nouveau peuple. Et l'apôtre Paul a donné une image très claire dans son épître aux Romains. Alors des fois c'est un peu compliqué, mais je vais essayer quand même de le dire simplement. Romains 11, verset 11. Par la chute d'Israël, hein, Israël a chuté, eh bien le salut est donc devenu accessible maintenant aux païens, afin qu'ils soient excités, Israël, à la jalousie. Vous voyez, quand les païens vont rentrer dans le peuple de Dieu, eh bien ça va exciter Israël à la jalousie. Et pour que nous comprenions bien, eh bien Paul compare Israël à un olivier domestique, un olivier que Dieu aurait planté dans son jardin. Cet olivier, il est saint. Ses racines sont saintes. En effet, on peut penser que Abraham, Moïse, David, entre autres, ont suivi Dieu. Paul l'illustre ainsi, la racine est sainte. Et les branches de l'olivier sont saintes également. Vous voyez ? Mais par la suite, Israël a chuté. Et nous dit Paul, quelques-unes de ses branches ont dû être retranchées et remplacé par des branches d'un olivier sauvage, qui représente les peuples païens. Vous suivez, hein, ça va ? Oui, d'accord. Et Paul s'adresse à nous, païens, en disant « Tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier domestique. » Vous voyez, maintenant, c'est nous. Et Paul dit « À chaque païen converti, c'est encore nous, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches retranchées, car sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine Israël qui te porte. » Voilà, ça nous remet à notre place. D'accord ? On est rentré dans le peuple de Dieu, on est devenu vraiment le peuple de Dieu, mais on ne doit pas se moquer, on ne doit pas dire « Ouais, Israël... » La conclusion de Paul nous touche tout particulièrement. Tu diras donc... Les branches Israël ont été retranchées afin que moi, Daniel, hein, je suis un païen, enfin, j'étais un païen, je sois greffé. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Tu subsistes par ta foi. C'est parce que j'ai la foi que je suis rentré dans le peuple de Dieu. Voilà donc pourquoi l'apôtre Pierre écrit dans sa première lettre, au verset 9, « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. » Vous vous rendez compte ce que ça représente ? Aujourd'hui, on est le peuple de Dieu. Frères, sœurs, à présent, nous sommes le peuple de Dieu, nous, les anciens païens. Nous sommes le nouveau peuple de Dieu, fondé et bâti sur Jésus-Christ. Alors maintenant que nous sommes son peuple, eh bien Dieu nous invite à entrer et à former son Église. Quand Jésus dit à Pierre « Je bâtirai mon Église », eh bien il se projette dans l'avenir. Pour l'instant, il est dans son ministère terrestre, Jésus. Le véritable départ de la construction de l'Église, vous savez c'est quand ? C'est la Pentecôte. Dieu a promis qu'il donnerait le Saint-Esprit à toutes celles et ceux qui croiraient d'un cœur sincère que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour effacer les péchés du monde. Eh bien, à la Pentecôte, le Saint-Esprit, sous forme de langue de feu, descendit d'abord sur les apôtres. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, acte 2, 4, puis sur toutes celles et ceux qui crurent d'un cœur sincère. Aujourd'hui, on a le Saint-Esprit en nous. L'apôtre Pierre leur dit, « Vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Alors, nous dit acte 2, versets 44 à 47, « Tous les croyants se rassemblèrent dans un même lieu. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, rompant le pain dans les maisons, prenant leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » C'est beau. Frères, sœurs, l'Église venait de naître. Voilà, l'Église venait de naître. Alors le mot Église, et c'est fâcheux, désigne dans notre langue à la fois la communauté chrétienne et le bâtiment qui l'accueille. Vous voyez, ici c'est l'Église, mais nous on est aussi l'Église. Et c'est pourquoi avant d'œuvre, l'Église c'est nous, et le bâtiment, des fois on l'appelle la chapelle. L'Église est donc le rassemblement de tous les croyants réellement convertis, qui ont reçu le Saint-Esprit et qui se sont regroupés en communauté. Alors on trouve ainsi l'Église universelle, dont les membres appartiennent à toutes les nations, toutes les tribus, toutes les générations, tous les peuples et toutes les langues. Et elles comprennent les croyants de toutes les générations depuis la Pentecôte jusqu'à l'avènement du Christ. C'est l'Église chrétienne. Et l'Église locale, qui a vu le jour dans toutes les régions du monde, où des personnes se sont tournées vers le Seigneur, bien c'est l'Église, par exemple, évangélique de Vendeuvre. Seuls ceux qui confessent librement que Jésus est le Christ devraient pouvoir devenir membres de l'Église locale. Seuls ceux qui, selon toute apparence, sont membres de l'Église universelle devraient être admis dans l'Église locale. Alors, là, la Bible, elle donne différentes images aussi de l'Église. La Bible compare l'Église à de nombreuses images de la vie quotidienne. Par exemple, les brebis. Jean 10, 14. « Je suis le bon berger, dit Jésus, je connais mes brebis et elles me connaissent. » Voilà, c'est pour ça qu'on parle aussi de troupeau. Nous, on est les brebis. Nous sommes les brebis, le troupeau dont Jésus est le berger. L'autre image, c'est les pierres vivantes. 1 Pierre 2, 4. Approchez-vous de Christ, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Alors nous sommes les pierres à qui Jésus a donné la vie pour édifier l'Église de Dieu. On a aussi un autre nom, c'est la fiancée. 2 Corinthiens 1, 2, 11, 2. Je vous ai fiancé à un seul époux, dit Paul, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Nous sommes cette fiancée que Jésus aime et chérit. Vous voyez, c'est ça aussi l'Église. Et puis enfin, l'autre image, c'est le corps du Christ. Éphésiens 5, 23. Christ est le chef ou la tête de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. On le voit à travers toutes ces images, Christ et l'Église sont étroitement liés. On ne peut imaginer l'Église sans Christ et Christ sans l'Église. Ce n'est pas possible. Il est la pierre d'angle qui soutient toutes les pierres vivantes, le fiancé qui aime et entoure sa promise, la tête qui commande et pourvoit aux besoins de tout le corps. Christ est aussi celui qui équipe l'Église des dons spirituels dont elle a besoin. Car chaque chrétien reçoit au moins un don spirituel. Et pourquoi faire ces dons spirituels? Eh bien, 1 Pierre 4, 10 nous dit, l'apôtre Pierre nous dit, « Comme de bons instruments des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Voilà. On a chacun reçu un don. Il faut le mettre au service de la communauté. Alors, les marques distinctives de la vraie Église, ce sont des caractères qui témoignent de son appartenance à Christ. Et la première, c'est l'unité. Elle est fondée sur Jean 17, et dans ce chapitre biblique, Jésus prie le Père que tous soient un, comme toi, Père, tu es un en nous. Vous savez, l'unité, elle est différente de l'uniformité. Nous sommes différents, ou aussi de l'unanimité. On ne peut pas faire l'unanimité dans l'Église, ce n'est pas possible. Nous pouvons avoir des désaccords. L'unité, c'est être un en Christ et pour Christ. Nous devons tous œuvrer à garder l'unité de l'Église par notre unité avec Christ. Ça, c'est essentiel. Si chacun, c'est comme, par exemple, une diligence où il y aurait des chevaux qui partiraient de tous les côtés, ça ne pourrait pas aller. L'Église, on doit aller tous dans la même direction. La deuxième chose, c'est la sainteté. L'Église est séparée, consacrée à Dieu. Elle est sainte. Tous ceux et celles qui en font partie sont dès à présent des saints. Vous êtes tous des saints ou des saintes. Même s'ils ne sont pas parfaits et que leur conduite ne soit pas non plus parfaite, la sainteté, c'est être mis à part pour le service de Dieu. Ce n'est pas la perfection comme certains le croient. Et je raconte toujours l'histoire que j'ai vécue lors d'un voyage que j'ai fait en Amérique du Sud. Je suis arrivé dans une petite île qui était où il n'y avait pas beaucoup de touristes. Et là, j'ai vu une femme avec un t-shirt marqué en anglais. Alors je lis la phrase, hein. « Toute ma vie, j'ai cherché l'homme parfait. Je suis resté célibataire. » Toutes celles et ceux qui confondent sainteté et perfection sont toujours déçus par l'Église qu'ils fréquentent. Ceux qui cherchent l'Église parfaite, ils seront toujours déçus, parce qu'il n'y a pas d'Église parfaite ici-bas. L'autre chose, la troisième chose, c'est l'universalité. L'Église est ouverte à toutes et à tous ceux qui sont appelés, quelle que soit leur race, leur niveau social, leur sexe, l'Église est ouverte et accueillante. La quatrième chose, c'est apostolique. L'Église est soumise à Christ, Éphésiens 5, 24. Elle est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Elle garde fidèlement l'enseignement apostolique, selon Actes 2, 42. L'Église persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et ce que je ne voudrais pas non plus oublier, que si Christ a demandé à l'Église de sortir des principes du monde, eh bien, il l'a ouvert au monde et envoyé dans le monde, l'Église. « Père, dit Jésus, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Et pourquoi Jésus nous a envoyés dans le monde? Eh bien, dit Jésus, « J'ai encore d'autres brebis, vous voyez les brebis, il y en a encore d'autres dans le monde, qui ne sont pas de cette bergerie. Et celles-là, il faut aussi que je les amène. » Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Frères, sœurs, l'Église du Christ, elle évangélise. Elle témoigne au monde l'amour du Christ. Voilà, on va vers le monde pour parler du Christ. Et enfin, personnellement, moi je considère qu'il y a deux formes d'Église, comme l'iceberg, vous savez. Vous voyez ce que c'est qu'un iceberg, dans l'eau. Eh bien, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Il y a une église invisible et une église visible. Alors, l'église invisible, c'est l'expression de tout ce que nous ne pouvons pas voir. Ce sont les relations de chacun des membres du corps avec son Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger les gens, parce qu'on ne sait pas la relation qu'il y a chacun avec son Dieu. C'est par exemple la foi, l'espérance placée en Dieu. La foi dit Hébreux est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez, c'est invisible, de celles qu'on ne voit pas. Les prières. Mais quand tu pries dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voilà, c'est des choses secrètes qui sont en nous. Les combats spirituels, car nous luttons contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On ne voit pas non plus. Les aumônes faites en secret, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, 3. Ce sont toutes les relations verticales entre Dieu et l'Église. Les relations profondes de chaque membre, et ce sont toutes les relations que personne ne voit, que seul Dieu voit. Parce que Dieu le voit. Car Dieu seul lit dans les cœurs et les pensées. C'est dans l'Église invisible que s'enracine et se fabrique la vie et la réussite de l'Église visible. Vous comprenez ça? L'Église visible, eh bien, c'est l'expression de tout ce que l'on peut voir. Voilà, c'est ce qu'on voit ce matin, par exemple. Ce sont toutes les relations horizontales dans l'Église entre frères et sœurs. Les œuvres, les activités, les cultes et les relations avec le monde non chrétien, le témoignage et l'évangélisation, tous les fruits de l'Esprit. Hein? Rappelez-vous ce que dit Jésus. « Vous êtes la lumière du monde, dit Jésus. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » C'est ça qu'on voit. C'est ça qu'on voit. On voit la lumière du monde en nous. Que votre lumière luise à la vue des hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Alors, frères et sœurs, notre puissante lumière, la qualité lumineuse de l'Église visible, dépend essentiellement de la profondeur d'enracinement de l'Église invisible, me semble-t-il. C'est vrai, tout ce que vous faites chez vous, tout ce que vous faites dans le secret, tout ce que votre relation avec Dieu, vos cultes personnels, votre force de prière, tout ça c'est important. C'est ça qui est important. L'Église, nous l'avons dit, est assimilée à un corps dont le Christ est la tête. C'est lui, Christ, qui purifie le corps par sa parole, le rend saint par son esprit, et le couvre de tout son amour au point de s'être même sacrifié pour lui. Et en tant que chef de l'Église, eh bien, Christ se soucie de son corps. Il va prendre soin de son corps. Éphésiens 5, 29, « Jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. » Christ prend soin de l'Église en lui accordant des bergers qui vont l'entourer et la diriger. Et là, je vais parler un peu des anciens. Les anciens, alors pour plus de facilité, et c'est biblique, nous considérons par exemple le pasteur comme un ancien qui travaille à plein temps pour l'Église. Alors que les autres anciens ont généralement une activité salariée en dehors de l'Église. Le pasteur, lui, se voue entièrement à son ministère grâce au soutien financier des membres. Donc c'est bien que nous, on puisse payer quelqu'un pour le travail de l'Église, et ça c'est important. En Corinthiens 9, 14, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile, eh bien, de vivre de l'Évangile. Voilà, ça c'est biblique. Alors, qui sont les anciens? Bibliquement, je regrette, mais ce sont des hommes, membres de l'Église, qui ont été choisis par Dieu pour être responsables du troupeau. Et voilà ce qu'écrit Paul à ce sujet. Acte 20, 28. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi ancien pour paître l'Église du Seigneur. Et d'après ce verset, on le voit, c'est Dieu qui choisit et établit les anciens dans leur ministère, en leur accordant les dons nécessaires pour le service. Il leur donne du zèle et du dévouement, et ainsi l'Église prendra conscience qu'ils sont destinés à être anciens. Et in fine, eh bien, c'est l'Église qui, par son vote, confirmera ou infirmera ce choix. 1 Timothée 3, 10, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. Qu'on voit s'ils sont capables, et ensuite on les laisse faire. Alors, quelles sont les conditions à remplir pour ceux qui aspirent à la fonction d'ancien? Un témoignage spirituel, déjà. L'ancien doit être saint. Alors, je répète, hein, pour que vous ne disiez pas que je ne suis pas saint. Alors, saint ne veut pas dire parfait, parce que je ne suis pas parfait, et Wardia peut en témoigner. Mais il doit travailler chaque jour à sa sanctification. Il se met à part pour Dieu dans ses fonctions. Il se rapproche quotidiennement de Dieu par la lecture de la parole, la méditation et la prière, sachant que notre sainteté est très étroitement liée à celle de Dieu. « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. » Lévitique 20, 26. Il doit être également attaché à la sainte parole, être stable dans sa foi et sa théologie, ce qui implique un engagement personnel. Et surtout, il ne doit pas être un jeune converti, mais avoir une maturité spirituelle adaptée à cette fonction. Car vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, mais le combat spirituel est plus intense pour les responsables. C'est quelque chose de compliqué et difficile. Un jour, j'en témoignerai. La deuxième chose, c'est un témoignage personnel. 1 Pierre 5, 3. Anciens, soyez les modèles du troupeau. Ça, c'est pas facile. Les modèles sont ceux à qui l'on s'identifie, qu'on prend comme exemple. Le modèle ne peut pas demander aux autres ce qu'il n'applique pas à lui-même. L'ancien doit être sobre, modéré, pas adonné au vin. Ben, il peut boire, moi je bois un peu, mais avec modération, bien sûr. Hein. Il doit être humble, modeste. L'argent ne doit pas être le but de sa vie. Il ne doit pas non plus recevoir des gains malhonnêtes. Ce qui doit caractériser l'ancien, c'est la maîtrise de soi. Il ne doit pas être ni violent, ni colérique, mais au contraire pacifique et indulgent. Un témoignage familial aussi. Bien sûr, l'ancien doit être mari d'une seule femme. Oui, Wardia me dit, oui, intérêt. Ce qui exclut la polygamie et l'adultère. Mais on pourrait penser que Dieu demande aux responsables, par exemple, de sacrifier leur famille au profit de l'Église. Vous savez, il y a souvent des textes sur lesquels on peut s'appuyer et se tromper complètement. Luc 14, 26. « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à sa femme, à ses enfants, il ne peut pas être mon disciple. » Si vous lisez ça comme ça, ben vous sacrifiez votre femme et vous sacrifiez vos enfants. Tout pour l'Église. Mais c'est pas ça du tout. En tout cas, c'est pas ça que j'ai compris, moi. C'est pas ça du tout, car l'ancien doit prendre soin, comme tout chrétien, en premier, de sa famille. 1 Timothée 5,8 « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille, eh bien, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. Il est pire qu'un païen. » C'est-à-dire que, moi, en premier, de qui je dois prendre soin ? De mon épouse et de ma famille. Voilà. C'est ça, aimer Dieu. Choisir Dieu, c'est prendre grand soin de sa famille. Car dit Paul, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourra-t-il prendre soin de l'Église de Dieu ? Pas possible. Un témoignage social. L'ancien doit jouir d'une bonne réputation, bien sûr, dans l'Église, mais aussi en dehors de l'Église, de la part des non-chrétiens, que ce soit dans la famille, la belle famille, dans le quartier, au travail, et plus généralement dans sa vie quotidienne. Vous imaginez que je sois un modèle dans l'Église et que dans mon quartier, je me conduise comme un truand ou au boulot, j'insulte tout le monde. Ça irait pas. Il doit être non parfait, mais irréprochable, qu'on ne puisse rien lui reprocher de mal. Il doit aussi être juste et impartial. Et enfin, la qualification propre au ministère, l'ancien doit être capable d'enseigner, d'exhorter selon la saine doctrine et aussi de réfuter avec respect et amour les contradicteurs. Alors, quelles sont les fonctions de l'ancien ? En réalité, si l'ancien a un regard sur tout ce qui concerne le fonctionnement de l'Église, il ne peut pas s'occuper de tout. Et il délègue. Voilà, il faut savoir aussi déléguer dans la vie. Les anciens travaillent en collégialité, c'est-à-dire en équipe et dans l'unité, ensemble. Voilà. Je voudrais ici rappeler un grand principe, il n'y a qu'un chef dans l'Église, et ce chef, c'est Christ. Très tôt dans l'Église, des hommes ont cherché à dominer et à prendre une place de chef. 3 Jean 9, c'est Jean qui parle. Il dit, j'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Voilà, il a pris la place de chef. Et il ne veut plus que les autres aient leur mot à dire. Aujourd'hui encore, certains bergers cherchent à prendre une place de chef qui ne leur appartient pas. Cette place, c'est Jésus. Matthieu 23, 10. Ne vous faites pas appeler directeur ou chef, car un seul est votre directeur, le Christ, et vous êtes tous frères. Et le risque, je le dis clairement, c'est l'abus spirituel. Lorsqu'on donne à un homme la place qui doit revenir à Christ, eh bien, il y a risque qu'il utilise la parole de Dieu, consciemment ou non, pour satisfaire ses désirs. Voilà ce qu'écrivent les deux auteurs de ce livre que j'ai mis derrière. Ils disent « Certains dirigeants utilisent leur autorité spirituelle pour contrôler et dominer le troupeau afin de combler leurs propres besoins d'importance, de pouvoir, d'intimité ou de gratification spirituelle. En choisissant habilement les bons mots spirituels, ils manipulent et humilient les membres de l'Église et les poussent à adopter certains comportements et accomplir certaines œuvres. Et ça, c'est grave. Frères, sœurs, vous l'avez compris, ce n'est pas cela le rôle du berger, de profiter des brebis. Schématiquement, les trois grandes fonctions de l'ancien sont, premièrement, faire paître le troupeau, 1 Pierre 5,2, paisser le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Le berger guide spirituellement le troupeau et le nourrit de la saine et sainte parole. La deuxième chose, c'est veiller sur, protéger et écouter les brebis. Le berger veille dans le respect à ce que la brebis ne s'égare pas. Il prend soin d'elle, en particulier des plus faibles. Il écoute leurs souffrances et pense leurs blessures. Il les protège des faux docteurs et des fausses doctrines. Mais je rappelle que le berger, ce n'est pas Dieu. Il faut prier Dieu, c'est Dieu qui répond, mais ce n'est pas le berger, forcément. Le berger, il est un instrument entre les mains de Dieu. Et puis, ce qui est important, c'est garder l'unité du troupeau. Ce n'est pas au berger de créer l'unité dans l'Église. Ce n'est pas nous qui créons l'unité. Cette unité, c'est Christ qui l'a offert à l'Église. Jean 17,20, je rappelle, je te prie, Père, pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. C'est Dieu qui nous donne l'unité, qui crée l'unité en l'Église. Nous, on est là pour essayer de garder l'unité, l'Église et les anciens. Les anciens reçoivent l'unité en héritage en tant que modèle du troupeau. Ils doivent eux-mêmes montrer l'exemple par leur unité entre anciens. Si les anciens commencent à se battre entre eux, ça ne va pas. Puis veillez à ce qu'aucune racine de division ne vienne perturber l'harmonie du troupeau. Alors parfois aussi, les anciens doivent exercer la discipline. Et ça aussi, c'est important. Toute discipline, toute autorité devrait, je crois, s'exercer dans l'Église selon les principes montrés par le Christ. À la fois justice et à la fois amour, quand il y a une discipline. Et on va prendre l'exemple, par exemple, de la femme adultère, Jean 8, verset 3. Jésus exprime sa justice. Il exprime ce qui est juste dans la parole de Dieu, en disant, oui, c'est vrai, cette femme a péché. Que ceux qui sont sans péché la lapident. Allez-y, faites-le. Ça, c'est juste. Elle mérite la lapidation. En rien, il ne contredit la justice de Dieu. L'adultère, c'est un péché qui mérite châtiment. Mais en même temps, il exprime son amour en déclarant, « Eh bien, je ne te condamne pas, va et ne pèche plus. » Voilà. Ça, c'est vraiment l'amour de Dieu qui est exprimé. Une église qui exercerait principalement la justice dans son fonctionnement, on pourrait, trouver une église qui ne fonctionne que par la justice. Eh bien, cette église lapide ses membres en disant « Le salaire du péché, c'est la mort, dehors, c'est l'exclusion. » Voilà, c'est comme ça qu'on peut, on peut pratiquer. Mais une église qui fonctionne que par l'amour, uniquement par l'amour, eh bien, exonère souvent ses membres de tout péché. C'est pas grave, vous savez, on s'aime tous. Et c'est le laxisme et le péché banalisé. Donc c'est pas mieux. Vous voyez, que de la justice ou que de l'amour, ben c'est pas bien. Parce que d'un côté, tout le monde peut pécher, c'est pas grave. Et de l'autre côté, le premier qui pêche, c'est dehors. Donc une église qui pratique à la fois la justice et l'amour, eh bien elle condamne le péché tout en aimant le pécheur. Et l'accompagne en l'amenant à la repentance, au pardon et à la reconstruction. Car nous sommes tous et toutes membres du même corps. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de l'autre en disant « Ouais, t'es un mauvais chrétien. » Et je terminerai là-dessus. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit, et ce sera ma conclusion, Hébreux 13, verset 17, « Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux du respect. » Car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Vous rendez compte? On devra rendre compte des âmes de chacun ici. On doit veiller dessus. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Et j'ose rajouter, priez pour vos anciens, pour vos bergers. Priez pour leur santé, pour leur famille, pour leur ministère, afin qu'ils demeurent fidèles et combattent jusqu'au bout avec vous et pour vous le juste combat de la foi. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Vous êtes l'Église de Dieu, nous sommes l'Église de Dieu, on est tous ensemble dans l'Église de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à l'autre. Ou on est tous ensemble, on va dans la même direction, vers le même chemin, vers la vie éternelle, et on doit tous se souder et avancer tous ensemble dans la même direction. Voilà, je vais prendre un instant pour prier, et puis ensuite... voilà. Seigneur, merci de... Oui, d'avoir donné ta vie pour nous, pour nos péchés, Seigneur, de t'être sacrifié, de nous avoir, d'avoir fait de nous un peuple et d'avoir construit ton Église, Seigneur, sur toi. Et maintenant, Seigneur, cette Église, c'est nous. Et aide-nous, Seigneur, chaque jour à avancer en relation avec toi et d'avancer, Seigneur, en relation avec nos frères et sœurs. Merci, Seigneur, pour tous les dons que tu nous as accordés. Merci Seigneur qu'on puisse les utiliser à bon escient et que vraiment Seigneur, chaque jour on soit attaché à toi parce que c'est de toi que viennent toutes choses. Béni soit ton nom Seigneur et béni soit cette église de Vendeuvre. Gloire à toi mon Dieu. Amen. Amen.
Merci. On peut retenir qu'on doit grandir dans l'attachement à Dieu, parce que c'est pas que nos responsables qui ont ça, mais chacun on peut grandir dans cet attachement à Dieu, et c'est comme ça qu'on garde l'unité aussi. C'est une joie de partager les annonces avec vous ce matin. Alors c'est les vacances hein, scolaires, donc il y a des choses un petit peu en moins, mais vous retrouvez tout de même demain la réunion de prière à 20h ici, pour partager ensemble et prier ensemble. Et jeudi, l'étude biblique à 14h, donc ce sera Exode 3 et 4, si vous voulez vous avancer, sinon venez et partagez ce temps ensemble sur Exode. Un peu plus loin, il y aura un concert, je ne sais pas si vous connaissez Johann Salva, vous pouvez regarder sur le net, vous devez trouver 2-3 choses. C'est aussi un ami à nous. Je sais pas, à chaque fois que j'annonce un concert, j'ai l'impression que... Mais le monde évangélique est petit, et donc on finit par se connaître tous. Johann, il est jeune, c'est un peu un homme instrument. C'est-à-dire qu'il va jouer de tous les instruments de musique. Je ne peux pas vous dire quel sera le style, parce qu'il a plein de styles différents. Par contre, c'est quelqu'un qui témoigne super bien. Donc il va chanter ses chants, mais il va parler. Donc c'est l'occasion de retenir cette date-là, et peut-être d'inviter des gens. Alors pour l'instant, on a uniquement la date et il y aura Quentin Netto hein, qui va aussi être là avec Johann. A priori, ce serait le soir, mais on vous reconfirme l'horaire dans les mails d'annonce cette semaine. Mais retenez déjà la date et ce sera normalement ici à l'église, si je ne me trompe pas. Donc le concert voilà, sera vraiment accessible à tout le monde. Un peu plus loin encore... Vous avez la prochaine date de préparation au baptême, donc ce sera la deuxième, le 10 mars à 10h, donc ceux qui sont concernés, normalement le savent, notez ça dans vos agendas. Le 18 mars, l'Assemblée Générale, donc pour les membres, pour ceux qui veulent assister, mettez ça dans l'agenda, on va passer cet après-midi du dimanche 18 mars à parler ensemble de notre Église, faire le bilan et puis voir aussi pour la suite. Le dimanche 1er avril, le culte de l'entente. Donc, je pense qu'on l'a vu dans les annonces, ce sera aussi resignalé. C'est Philippe de Courroux qui sera là pour le culte de l'entente au domaine de l'année. Donc, c'est lui qui sera l'orateur, mais c'est également l'occasion de l'entendre en concert l'après-midi. Donc, pour cette date aussi, on peut retenir. J'ai des petites informations en plus, c'est les vacances, donc Équilibre sera fermé cette semaine. Si vous comptiez acheter des livres, reportez ça la semaine suivante. Et le pasteur n'est pas là aujourd'hui, on parlait du pasteur des anciens, mais il prêche à Sarrebourg. On a des églises amies, on a des échanges, et du coup il est monté prêcher à Sarrebourg. Il a emmené avec lui nos salutations, et donc vous le verrez demain soir à la réunion de prière ou la semaine prochaine. J'ajoute que si vous ne recevez pas les annonces, je le dis à chaque fois, mais n'hésitez pas, des fois il y a des soucis d'orthographe, des soucis de mail, des choses comme ça, pour revoir les annonces sur ces mails, c'est quand même plus simple de retenir tout ce que je vous dis. Et puis on a le super flyer pour notre week-end d'église aussi, ça vous sera, on vous repassera les petites vidéos, etc., mais pensez à mettre ça dans vos agendas également. Ça va être un super moment tous ensemble. J'ai un mariage ce jour-là, donc je pourrais pas. On essaiera de venir vous rejoindre en fait le dimanche. Mais voilà, passez ce moment, mettez ça dans votre agenda. C'est vraiment un super temps à chaque fois. Est-ce qu'il y avait d'autres annonces? Donc les gens doivent y réfléchir et vous êtes prêts le dimanche à recevoir les temps. Okay. C'est une super idée. Merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres annonces. Je ne sais pas si quelqu'un clôt le culte, s'il y a un chant, c'est quelque chose. Pas d'autres annonces, c'est bon? D'accord. Alors je vais juste revenir dans l'Ancien Testament et à l'époque de Moïse pour terminer par ces paroles de bénédiction. Tiré de Nombre 6 pour changer un petit peu des épîtres. L'Éternel dit à Moïse : Transmets ces instructions à Aaron et à ses fils. Voici comment vous